Le journal Innocent Olenga.
D'abord, les titres du journal. Alexis Thambwe Mwamba démissionne du MLC, son parti. Il démissionne également du gouvernement. Il a annoncé il y a quelques instants seulement, à raison de cette démission, convenance personnelle. Ouverture du congrès national des patriotes résistants Maïma hier mercredi soir à Bukavu. Un congrès dominé par des querelles internes. D'un côté, Kaliba Moulanga, ministre du développement rural, préside ce congrès. De l'autre, les représentants locaux de la branche d'Anselme Enerunga, ministre de l'environnement, appellent leurs militants au boycott. 14 personnes se sont noyées dans le lac Édouard dans la nuit du lundi à mardi dernier. Le drame s'est passé à Mouramba, dans les territoires des Loubéros, au nord Kivu. Voilà tout pour les titres. Le ministre du Plan vient d'annoncer il y a quelques instants seulement sa démission du MLC, son parti politique. Alexis Thambwe Mwamba évoque pour l'instant des raisons personnelles. Et comme conséquence, le ministre a annoncé également sa démission du gouvernement. Ce poste étant réservé au MLC, le parti du vice-président Jean-Pierre Bemba. Belinda Bosuma.
Le ministre du Plan, M. Alexis Thambwe Mwamba, vient d'annoncer sa démission. Il affirme avoir pris cette décision depuis longtemps, mais il ne pouvait pas la faire exécuter directement du fait qu'il lui restait une mission importante à remplir. Cette mission importante est donc le DCRP selon M. Alexis Thambwe Mwamba. Le DCRP en question est un document stratégique pour la réduction de la pauvreté. À dater de ce jour, M. Alexis Thambwe Mwamba démissionne, restitue le mandat du ministère du Plan à la composante MLC de Jean-Pierre Bemba. Ce DCRP est produit depuis hier et est disponible à tous les membres du gouvernement. Selon Alexis Thambwe Mwamba, il quitte le MLC pour des raisons personnelles et affirme qu'il veut être candidat indépendant aux élections législatives. Notons que Thambwe Mwamba a été plusieurs fois ministre aux transports et communications, aux travaux publics, à l'aménagement du territoire. Et ce dernier poste qu'il occupait, ce ministère du Plan, depuis le ministère du Plan à Kinshasa, Belinda Bosuma pour la Radio Okapi.
Ouverture du congrès national des patriotes résistants Maïma hier mercredi soir à Bukavu. Un congrès dominé par des querelles internes. D'un côté, Kaliba Moulanga, ministre du développement rural, préside ce congrès. De l'autre, les représentants locaux de la branche d'Anselme Enerunga, ministre de l'environnement, appellent leurs militants au boycott. Les points avec Didas Namujimbo.
C'est sur fond de tension que s'est ouvert ce mercredi le tout premier congrès national des PRM, les Patriotes Résistants Mai Mai. Tension car le parti est divisé en deux camps depuis mi-février 2006. L'aile Anselme Enerunga, qui a déjà tenu son congrès, lui, à Kinshasa, et l'aile Kaliba, qui le tient ce jour à Bukavu. Les deux personnalités, ministres dans le gouvernement de transition, se battent pour le poste de président national de ce parti. Mardi et mercredi, les partisans de Anselme Enerunga avait menacé, à travers des radios locales, de tout saccager au cas où le congrès se tenait. Finalement, ils ont renoncé après que le maire de Bukavu ait officiellement autorisé la tenue de ce congrès. Un imposant dispositif de sécurité est d'ailleurs déployé sur place. Pour revenir au congrès de Bukavu, des commissions ont été constituées. Il est question d'élaborer les listes des candidats éligibles, de voir avec quelle formation politique faire alliance. Mais pour le poste de président de la République, les patriotes résistants Mai Mai qui sont en congrès disent soutenir la candidature de Joseph Kabila Kabange. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
Au Kasaï Occidental, 30 organisations non gouvernementales prêtes à sensibiliser la population sur les élections, notamment sur les normes à respecter avant, pendant et après des scrutins libres et démocratiques. Cette formation des formateurs est organisée par l'Institut électoral d'Afrique australe, financé par les projets d'appui au processus électoral. Les reportages de Marie-Chantal Lumba.
Les formateurs ont expliqué les liens entre la démocratie et les élections. Ferdinand Kapanga de l'Institut électoral d'Afrique australe a souligné que le vote est libre. L'électeur dans l'isoloir ne peut subir ni pression ni intimidation. Il effectue son choix selon sa volonté. Ce pour le candidat qui présente des qualités que l'électeur considère nécessaires pour un dirigeant au service de l'intérêt général de la population. L'orateur recommande également aux sensibilisateurs d'insister pour que les électeurs adoptent une attitude responsable face aux résultat des élections, éviter des comportements qui pourraient nuire au verdict des urnes. M. Kapanga souligne que la paix et la démocratie ont un prix. Après ces 4 jours de formation, les représentants des ONG formés sont déployés dans les territoires de la province pour éduquer et encadrer les électeurs. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
En marge des élections prochaines, l'organisation non gouvernementale Action contre l'impunité et les droits humains demande à la population congolaise de voter pour des personnes qui peuvent promouvoir les droits humains. Les réputés criminels ne doivent pas être élus. L'ONG ACDH a fait cette déclaration dans un communiqué de presse du 11 mars dernier. Prince Kumwamba, secrétaire exécutif à l'intérim, appelle aussi les partis politiques à sélectionner des candidats qui n'ont pas de mains souillées. Il est au micro de Denise Maheo.
La population connaît parce que c'est la population qui a été victime des viols, c'est la population qui a été victime des pillages, des ressources naturelles et des ressources financières, c'est la population qui a été victime des massacres, et c'est la population qui connaît très bien ces personnes, chacune dans sa circonscription. Elle connaît très bien qui a fait quoi et elle pourrait les sanctionner objectivement.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'elle ne pourra voter pour ces personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans la commission de ces crimes. C'est une sensibilisation. Nous avons toujours demandé que les personnes qui commettent des crimes, des personnes qui détournent des fonds publics, des personnes qui pillent les ressources naturelles du pays, des personnes qui massacrent, puissent être jugées et condamnées. Et comme nous n'avons pas encore obtenu cela, et nous recourons à la population pour qu'elle puisse les sanctionner au moment du vote.
Au Nord Kivu, dans les territoires des Lubero, 14 personnes se sont noyées dans les lacs Édouard dans la nuit du lundi à mardi dernier à Muramba. Selon l'administrateur des territoires, la tempête est la principale cause de ces désastres. De Butembo, correspondance d'Étienne Mouindo.
Les 14 pêcheurs noyés étaient à bord de 3 pirogues différentes. Les pêcheurs ont quitté leur village de Muramba lundi dernier vers 17h. C'était après la forte pluie qui s'est abattue sur la contrée, explique un pêcheur rencontré ce matin à Butembo. Et d'ajouter, la nuit, un vent violent soufflait sur la région. Le phénomène climatique est à la base de ce drame, soutient M. Josué Badibanga, administrateur du territoire des Lubero. Toujours selon l'administrateur, tous les efforts en vue de retrouver le corps sont demeurés vains. Le territoire ne disposa pas d'embarcation appropriée pour de telles recherches. À cette période pluvieuse, l'administrateur du territoire déclare craindre d'autres catastrophes. Dans la région, il n'existe pas de service météo capable de fournir des prévisions climatiques. Étienne Mouindo, Butembo, Radio Okapi.
Les bacs facilitant la traversée de la rivière Lokeni à près de 40 km de la cité de Lodia au Kasaï oriental est inopérationnel depuis 5 jours à cause d'une panne, ce qui paralyse tous les échange vers le nord du territoire. Les acteurs économiques et les personnalités politiques ne cachent pas leur inquiétude. Correspondance de Billy Ivan Lutuma.
Le trou dans une des barges condamne depuis samedi le bac à une rive de la rivière Lokeni. Conséquence, les véhicules ne peuvent plus atteindre facilement les territoires de Lubefou et de Katakokombe. L'indisponibilité du bac oblige un détour par le secteur de Tchoumbé, long de plus de 350 km qui est en grande partie impraticable. Sur le plan économique, il est maintenant difficile d'acheminer les produits manufacturés en provenance de Goma et Kinshasa vers les territoires de Lubefou et Katakokombe. Cependant, on ne note pas encore des hausses significatives des prix des produits alimentaires de base sur le marché. Pour certains diamantaires basés dans la cité de Lodja, cette panne du bac les coupe presque du secteur de Kondo Tchoumbé, un des principaux pôles d'exploitation du diamant qui assure une large part des revenus dans le territoire. Pour eux, la traversée par pirogue est risquante. Dans le riz de Lodja, les sympathisants de divers partis politiques déclarent, je cite, « Comme la réparation du bac tarde, cela posera beaucoup de difficultés dans la sensibilisation de la base aux prochaines échéances électorales. » Fin de citation. Contacté, l'administrateur du territoire déclare que les démarches sont en cours en vue de joindre l'office des routes pour une éventuelle réparation. Billy Ivan Lutumba, Lodja, Radio Okapi.
Dans les Bandundu, le commandant de la première région militaire a visité le centre de regroupement des ex-combattants. Le général Mustapha Mukiza Kabi s'est rendu tour à tour à Bandunduville, Kenge, Gungi, Kahema, Tembo et Kikwit. But de cette tournée, sensibiliser ces ex-combattants au programme de la CONADER avant leur entrée au centre de transit et d'orientation de Kiminga. De Kikwit, Fabien Kambizi.
Dans chaque centre de regroupement, le général Mustapha a sensibilisé les militaires sur le programme national de désarmement, de mobilisation et réinsertion, et aussi à se rendre compte du contrôle d'armement par la commission mixte FRDC, SMI, qui est la structure militaire intégrée, et la MONUC. Il a ensuite demandé aux militaires, d'une manière générale, de se tenir prêts pour le mouvement vers le centre d'orientation de Kindinga. Par ailleurs, au centre d'orientation de Kindinga, pratiquement prêt à recevoir les ex-combattants, les gestionnaires du dit centre Mekinkoulou Mokote Augustin s'est attelé depuis l'ouverture du centre le 8 février 2006 avec tout son personnel à l'interprétation des fiches et autres documents à leur disposition pour un bon déroulement du processus au centre. D'équipe, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
13h11 minutes à Goma, vous suivez Radio Okapi. 40 Télésphores, c'est le nom du nouveau président du Baraza Laweze Nord Kivu, une structure traditionnelle de concertation chargée de régler les conflits entre les différentes communautés vivant dans cette province. C'est hier jeudi qu'il a été élu président de ce nouveau cadre mis sur pied à Goma par le président de la Commission Vérité et Réconciliation il y a de cela une semaine. La Baraza Laweze remplace l'ancien Barza intercommunautaire dissous en décembre 2004. Le nouveau président du Baraza compte amener toutes les communautés du Nord Kivu et celles d'autres territoires de la RDC vivant dans cette province à se parler un langage franc. Il est au micro de Bray Munganga.
En fait, ce qui nous a divisé, c'est puisque nous n'étions pas francs, ni avec de l'hypocrisie. Et vous savez que nous sommes des Africains. Lorsque nous allons faire l'installation officielle de ce comité et de ce nouveau Baraza, nous allons faire un pacte à l'africaine. Nous allons chercher une bête, hein, par exemple une chèvre ou une vache, et nous allons l'immoler, et le sang va couler, et c'est autour de ce sang qui va couler que nous allons faire le pacte. Nous allons faire un pacte de sang et un pacte par écrit. C'est comme on a fait à San City, un accord global, et les gens ont signé. Alors nous, ça sera la même chose. Donc celui qui va aller à l'encontre de ce pacte, alors c'est son problème. Vous savez que l'objectif n'a pas changé, c'est toujours le même objectif que le barzin intercommunautaire. Et nous avions comme objectif d'abord de véhiculer le message de paix, de faire en sorte qu'il y ait la cohabitation pacifique et qu'il y ait le dialogue entre les communautés.
À Bounia, le nombre de déplacés de guerre n'est fait qu'augmenter. Près de 1900 familles ont été enregistrées de janvier à février de cette année. L'ONG locale qui assiste s'est déplacée attend encore procéder au recensement des autres qui se sont ajoutés il y a deux semaines suite aux affrontements dans leur milieu d'origine. Le point avec Jean-Claude Bissiliabo.
Il est 7h30 à Bounia. Déjà une foule immense de gens se rassemble sur les terrains de l'école officielle de la ville. Visage un peu triste, hommes et femmes, chacun garde jalousement son château d'enregistrement. Tous viennent uniquement pour recevoir une aide en vivres de l'ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, un don du Bureau des programmes alimentaires mondial.
La manière de venir sauver la situation de la population, c'est une manière que l'on peut féliciter et que Dieu peut aussi bénir pour sauver cette situation précaire dans laquelle la population se trouve au niveau de Bounia.
Entre-temps, le Bureau de coordination des agences humanitaires multiplie ses rencontres avec ses divers partenaires de la place en vue de déterminer le nombre exact de déplacés se trouvant à Bounia. Selon Modibo Traoré, chef du bureau de OCHA Bounia, la situation reste un peu floue.
Je parle des déplacés de ces deux dernières semaines. Il faudrait signaler que d'autres sont arrivés depuis janvier et qui ne figurent pas dans ces statistiques-là. Donc ce travail d'identification est en cours, mais d'ores et déjà, on peut estimer ça à plusieurs centaines de familles qui sont sur Bounia.
Cette semaine, une rencontre d'urgence a réuni les autorités locales et les agences humanitaires pour étudier les modalités d'ouvrir un site pour les déplacés à Bounia. Mais pour les chefs de bureau OCHA à Bounia, les déplacés sont pour l'instant mieux assistés dans des familles d'accueil. De Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Il n'y a pas de temps à perdre, a déclaré hier mercredi le président de l'Assemblée générale de l'ONU peu avant le vote pour la création d'un Conseil des droits de l'homme. Le vote majoritaire a créé un nouvel organisme de promotion et de défense des droits de l'homme, plus puissant et dépendant directement de l'Assemblée générale. La résolution créant le Conseil des droits de l'homme a été adoptée par un vote écrasant de 170 voix pour, 4 voix contre, dont les États-Unis et 3 abstentions. Explication avec Michel Motta de la radio de l'ONU à New York.
Le nouveau Conseil des droits de l'homme voté ce mercredi matin marque une étape significative. Kofi Annan l'a qualifié de fondation solide sur laquelle peut se construire un instrument efficace de promotion et de défense des droits de l'homme. Le nouveau Conseil sera établi à Genève pour remplacer la Commission des droits de l'homme. Son mécanisme de revue périodique du respect des droits de l'homme dans chaque pays corrigerait l'accusation de sélectivité et de partialité portée contre la Commission de Genève. Différence importante, un nouveau mode de participation. Les 47 membres de ce Conseil devront recueillir une majorité de 96 voix en un scrutin direct et secret, une première. Certains acquis de la Commission, dont les jours sont maintenant comptés, passent au nouveau Conseil, la collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et l'apport direct des organisations non gouvernementales. L'enjeu va au-delà d'un mécanisme international de contrôle, de prévention et de défense des droits de l'homme. Il touche la vie de millions d'habitants de cette planète.
Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.